Bonsoir.
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 C'est l'équipe d'Imaginaire sur le 101.5 en direct jusqu'à 22h. On revient des Utopiales un petit peu. Ça fait un petit moment qu'on est revenu, mais
oui, plus ou moins, voilà. Oui.
Voilà.
On revient avec plein de choses à raconter sur les Utopiales, plein de choses à annoncer à partir des Utopiales,
et
pour la suite des Utopiales, bien sûr.
Et puis, on va s'écouter dans cette émission l'interview d'Alain Damasio que nous avons enregistré aux Utopiales. Mais avant tout ça, un petit peu de musique. Pas de Tyrannosaurus Berium, il est en vacances, donc on écoute les Scallywags. Les potards sont complètement dans le rouge en écoutant les Scallywags qui seront en concert au Joker's Pub mercredi dans une semaine. Faudra qu'ils fassent attention, mais il y a un décibelomètre, hein, je sais pas comment ça s'appelle, hein, juste à côté de la scène là-bas.
Ouais.
Un décibelomètre.
Ouais, ouais, si oui, oui. Voilà. Luc, d'entre les pages qui est dans le studio, me dit que oui. Allez, c'est l'heure de la chronique de Bess.
Get away from her, you bitch!
I know my value. Anyone else's opinion doesn't really matter.
Mary Poppins, practically perfect in every way.
Spoilers. Alors, imaginez un exorcisme. Malheureusement, tout n'est pas bien qui finit bien et la personne supposément possédée meurt. Alors, dans les films, je sais pas comment ça se passe par la suite.
T'as pas vu l'exorciste ?
Oui, mais quand la personne, elle meurt.
Ah oui, d'accord.
Ouais. En tout cas, dans la vraie vie, ça peut finir en procès. Avec le prêtre sur le banc des accusés pour négligence ayant entraîné la mort. Ça, c'est l'histoire vraie d'Annelise Michel, jeune fille allemande dans les années 70, qui était donc supposément possédée et malheureusement décédée. Le prêtre qui a mené les exorcismes a été attaqué en justice. Et c'est sur cette histoire que se base le film « L'exorcisme d'Emily Rose » de Scott Derrickson. On va suivre le procès du padré et la lumière sera particulièrement mise sur son avocate Erin. Pas Brockovich du tout, rien à voir. C'est Erin Brunner qui, dans ce film, est l'avocate mandatée par l'église pour défendre le père Richard Moore. Erin a été choisie car c'est une étoile montante du barreau et qu'elle vient surtout de faire acquitter un criminel dans un procès très médiatisé. Tu sens que la nana, elle transpire bien la confiance en elle et l'intelligence. Et ambitieuse avec ça. Son truc, c'est de devenir associée dans son cabinet, quel qu'en soit le prix. C'est bien pour ça qu'elle accepte de défendre le père Moore et elle ne le cache pas. Elle a les dents qui rayent le parc et la petite dame, je vous le dis. Là où ça devient intéressant, c'est que notre héroïne se définit comme agnostique. Donc d'après Wikipédia, selon les agnostiques, il est impossible de trancher le débat sur l'existence d'un dieu ou d'une divinité. Il n'y a aucune preuve définitive sur le sujet, il n'est pas possible de se prononcer. Or, comment va-t-elle défendre un membre de l'église qui a pratiqué un exorcisme et qui n'arrête pas de répéter que des forces obscures entourent le procès ? Déjà, avec de l'alcool. Que ce soit au bar avec un martini ou chez elle avec un verre de rouge, Erin aime boire en travaillant. Ensuite, avec de la stratégie et un recul très important sur l'affaire. Qu'elle y croit ou non, son but est de montrer qu'il n'y a pas eu négligence et que le prêtre a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver Emily. Erin, c'est quelqu'un d'indépendant et vraiment sûr d'elle. L'église refuse que le père Moore témoigne, qu'importe, elle l'appelle à la barre. L'église gueule, qu'importe, elle le fera témoigner une seconde fois. Car c'est sa stratégie et elle y croit dur comme fer. Mais pas que. Parce que ces forces obscures qui pèsent sur le procès commencent à peser aussi sur notre avocate. Ses nuits sont bien plus courtes maintenant qu'elle se réveille chaque fois à 3h du matin. Qui, comme chacun sait, 3h du matin, c'est l'heure du malin. Et que dire de ce pendentif trouvé par hasard dans la rue sur lequel sont gravées ses initiales? Ou encore de la porte d'entrée qui s'ouvre seule? Ou bien même de son témoin clé victime d'un accident mortel juste sous ses yeux? Oui, tout pousse à croire qu'il y a baleine sous gravillon, que le diable lui-même erre dans le coin, et pas que dans les détails. Après tout, Erin est agnostique, il lui faut des preuves, comme dans un procès. Ses étranges expériences n'en seraient-elles pas? D'autant que ses nerfs d'acier sont mis à l'épreuve. Elle arrive en retard. Le mec qu'elle a fait acquitter est arrêté pour un double meurtre. Elle commence à flipper de perdre. Bref, ça sent un peu le roussi. Heureusement, elle peut compter sur sa finesse d'esprit et son mordant au tribunal. Elle ne lâche rien malgré la difficulté du truc. On a donc là une héroïne intelligente et ambitieuse, avec du sang-froid et des compétences. Élevée par une mère célibataire dans la pauvreté, elle a fait son petit bonhomme de chemin et est devenue une brillante avocate. C'est rafraîchissant d'avoir comme rôle principal dans un film fantastique, autre qu'une ado ou très jeune femme, autre qu'une badass ou une maman prête à tout. C'est pour ça que j'ai voulu vous parler d'Erin Brunner, femme qui a tout pour être connue et reconnue dans les films de genre. Et pour terminer en chanson, on va s'écouter la douce Agnès Obel qui chante Riverside.
Side.
dépend de ce qu'on appelle super.
Toujours à critiquer.
Ah, mais je suis fan de son premier CD, pas de son deuxième.
Ah bon, qu'est-ce que tu lui reproches?
Oh, le puriste.
Oui, mais attends, elle chantait en gaélique sur le premier. Là, elle fait que des trucs en anglais, alors bon, c'est quand même beaucoup moins bien.
Quel snob.
Elle en vend peut-être plus, par contre.
Tu parles pas mieux le gaélique que l'anglais, ceci, hein, le Pierre Marie, quand même.
Tout à fait, mais j'apprécie mieux les sonorités du gaélique.
On
ne
lui demande pas souvent de parler gaélique dans cette émission, et on le fera à l'avenir.
Bah oui, allez, soyons fous. Plutôt que de parler gaélique, moi je vous propose de parler science. Et science-fiction.
D'accord.
Ah bon.
Pourquoi pas.
Utopia, là. Sur les 5 personnes présentes ici, nous étions une majorité y aller, c'est-à-dire 3. Ouais. Il y en a un autre qui a décidé de vivre sa science-fiction, mais à Venise. Alors ça,
forcément... Ah oui, avec Orto Maltese quand même. Hein.
Ah, c'est pas mal aussi. Les Utopiales, donc 5 jours de folie où la science se mêle à la littérature pour parler imaginaire. Sous la direction effective de Roland Lehoucq et sous la direction artistique de Jeanne Adeba et graphique de Francescano.
Gilles Francescano,
et bah, heureusement que je ne me plante pas. Nous avons pu voir pas mal de choses. Nous avons réalisé 9 interviews, dont la prochaine qui va être diffusée tout à l'heure.
Alain
Demasio, pour arriver à le choper, c'est un petit peu essayer de choper le Graal, quoi, parce que tout le monde essaie de se battre pour l'avoir et les séquences d'interviews sont à 20 minutes, plus sans compter le temps de déplacement.
Mais on l'a eu.
Donc vous allez bientôt entendre 15 minutes d'interview d'Alain Demasio dans quelques minutes sur le 100.5.
Nous avons pu aussi interviewer un autre scientifique, parce que quitte à aller là-bas, autant parler à des scientifiques, et donc Thomas Durand, que nous avions découvert en 2013 à Imaginaire pour la sortie de son deuxième tome de fantasy burlesque. Il avait sorti quelque chose, Les Énigmes de l'Aube, et puis ça avait mal marché, il était édité par une petite maison d'édition qui s'était cassée la figure, et il est parti dans les sciences dures, puisqu'il était biologiste à l'université d'Angers, en enseignant-chercheur, et il s'est tourné vers YouTube. Il est devenu influenceur à succès, puisqu'il est co-fondateur de La Tronche en Biais, qui est une émission qui permet de déjouer les biais cognitifs, et donc il a été invité... C'est un YouTuber scientifique.
C'est quoi un biais cognitif?
Et bah, c'est comment ton cerveau fait pour se biaiser tout seul parce qu'il va trop vite. Et il te l'explique dans l'interview.
Ça veut dire que le cerveau est un mauvais allié, mais ça tout le monde le sait.
Donc voilà, donc nous avons réussi à le rencontrer. Nous avons aussi pu interviewer Étienne Barillet et Cécile Duquesne sur le steampunk.
Cécile Duquesne, j'aurais.
Mais surtout, ce qui est important de noter, c'est les prix, puisque étant le premier salon francophone de littérature, deuxième salon francophone et premier salon français de l'imaginaire et de science-fiction, il y a forcément beaucoup de prix, beaucoup, beaucoup, beaucoup de prix. Donc allons-y, c'est parti pour le palmarès. Le prix Utopial va à Elstrid. Redis-le.
Elstrid.
Bah voilà, pour les noms anglais, je te laisse le faire. De Christian
en français, hein.
Léourier, aux éditions du Bélial. Prix Utopial Jeunesse.
Dans la catégorie Une Heure Lumière, d'ailleurs, c'est plutôt des novellas, la catégorie Une Heure Lumière. Et j'ai vu qu'il y en avait deux dans le palmarès, là.
Tout à fait.
Bien joué, le Bélial.
Prix Utopiel Jeunesse in Real Life, tome 1, Déconnexion, de Maïwenn Alix, aux éditions du Mélan. Vas-y, t'as quelque chose à dire?
Maïwenn, on peut l'appeler Maïwenn.
Prix Utopiel BD, Un gentil orque sauvage, de Théo Grosjean, aux éditions Delcourt. Prix Julia Verlanger, Les meurtres de Molly Foothburn, de Ted Thompson, édition du Bélial, toujours à Une Heure de Lumière. Prix Joël Champetier, Chloé...
Joël Champetier,
tout à fait.
C'est en français, là.
Oui, tout à fait. La nouvelle Chasseuse de Soleil, écrite par Chloé Jo Bertrand. Je te laisse faire le cinéma. C'est ta tasse de thé.
Alors moi, j'ai pas vu les films qui ont été primés. Donc, Little Joe de Jessica Hausner. The Antenna de Orsun Beram, je crois que c'est un film turc.
Mention spéciale du jury.
Et puis le prix du public a été donné à Weathering With You de Makoto Shinkai. Est-ce que ça vient des studios Ghibli?
Non, je dis des bêtises. Mais c'est le deuxième meilleur animé fait dans le cinéma japonais. Toutes catégories confondues.
Deuxième en termes de fréquentation, dans les salles de cinéma.
Tout à fait. Et puis par près du public là-bas.
Donc j'imagine que ça va probablement bientôt sortir au cinéma en France.
Janvier 2020. Ouais.
D'accord, ok. Non, moi j'ai raté le meilleur des Utopiales, j'ai vu le pire en fait.
Toi, t'as une séance de cinéma assez.
Voilà. J'étais parti pour voir Upgrade, dont on va s'écouter un petit extrait de la BO dans quelques minutes. C'est un film qui est sorti il y a 2 ans quand même, plutôt du cyberpunk là. Et en fait, je me suis retrouvé je me suis trompé de ça là, parce que Cette année, c'est un peu changé, la disposition a un petit peu changé. J'avoue que j'étais un petit peu perdu, moi.
Ouais, puis il y avait vachement de monde aussi. Donc,
Effectivement, j'ai vu des gens qui faisaient la queue. Je me suis mis derrière en disant, tiens,
c'était pas la bonne queue.
Ça doit être ça, quoi. Là, les gens font la queue et tout. D'ailleurs, c'était pendant la remise des prix. Je me suis dit, non, ça doit être ça et tout. Et puis, c'était pas en bas, c'est sûr, dans la grande salle du bas où non, il n'y a que les films en compétition qui passent. Et puis voilà, je me suis tapé The Man From Earth, je crois, un film qui est sorti il y a quelques années et qui avait été fait en financement participatif. Et avec quelques acteurs connus quand même, notamment Tony Todd, je crois, qui jouait le rôle du Candyman, célèbre film d'horreur des débuts des années 90. Et c'était une vraie catastrophe. C'est même pas un film. Non, on est parti à deux à un moment. Il faudrait qu'on le voie tous et puis qu'on débriefe sur ce film une fois que certaines personnes adorent parce qu'il y a une idée peut-être intéressante dans ce film. Mais le reste, je sais même pas si on peut vraiment parler de cinéma tellement c'est mal filmé.
Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec toi.
Non, mais c'est la première fois que je vois un acteur dont on filme le dos, en fait, d'habitude. Et alors ça se passe dans une seule pièce, en plus, ce film. Donc là, ça leur a pas coûté cher. Bon, il y a des films qui se passent dans une seule pièce et qui sont assez haletants, qui durent une heure et demie. Mais là, en plus, il y a aussi un problème. J'imagine que c'est à l'éclairage. Certains acteurs, donc ils discutent tous devant une cheminée, hein, parce que c'est un dialogue d'universitaire pendant une heure et demie. Certains mecs sont filmés assez nettement, et dès qu'on passe à un autre qui est en face, l'image devient complètement granuleuse, comme si, je sais pas, ça avait été sous-exposé. Et donc, en fait, on n'a pas l'impression que les mecs parlent dans le même film. Je sais pas si vous avez déjà vu.
C'est fait exprès ?
Non, je pense pas que ce soit fait exprès, non. Non.
C'est juste
très très mal fait. Et ça faisait longtemps au cinéma, j'avais pas vu quelque chose d'aussi mal fait. Et alors, le pire, c'est quand même la caméra dans le dos du mec, donc un peu entre les deux épaules. Là. On voit à peine les autres personnes qui sont assises à côté de lui, à qui il parle. Et donc, j'ai pas compris pourquoi la caméra était dans le dos du mec. Et donc, c'est l'histoire d'un mec qui annonce à ses collègues universitaires qu'il est obligé de déménager. Parce que, en fait, c'est l'homme le plus vieux du monde, il n'est jamais mort. Et comme il vieillit pas, tous les 10 ans, il est obligé de. Je spoil un petit peu, je spoil beaucoup. Et comme il vieillit pas, tous les 10 ans, il est obligé de changer de place, sinon ça devient un petit peu louche, quoi. Et comme par hasard, il se retrouve en face d'un spécialiste de l'anthropologie, un spécialiste de l'histoire de l'humanité, enfin bref. Donc c'est une grosse discussion entre universitaires. Notamment d'ailleurs, les universitaires, d'ailleurs. Un des premiers personnages qui est montré vient avec son étudiante. Ils descendent de moto, et puis il y a une espèce de blague pourrie. Did you enjoy the ride ou un truc comme ça. Enfin bon, en gros, on monte alors les professeurs, les universitaires, voilà. Donc on monte celui qui se tape son étudiante et qui vient avec. Donc déjà super, yes. Belle vision des profs de fac, mais enfin bon. Et je sais pas si en 2019 ça passerait encore d'ailleurs. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais. Donc le mec, je comprenais pas pourquoi on le filmait de dos. Et au bout d'un moment dans le film, les gens ils disent mais qu'est-ce que t'as fait alors dans ta vie et tout. Et j'ai fait ça.
Et quand on le voit de face,
le mec dit. Je me demande, c'est pas un comédien connu d'ailleurs dans une série télé des années 90. Le mec dit ouais, on parle même de moi dans la Bible et tout. Ah bon, et tout. Et puis là, le mec dit bah en fait Jésus c'était moi quoi. Et là je me suis dit, ah c'est pour ça parce que c'est la deuxième fois dans ma vie que je vois un acteur filmé de dos en fait quand il parle aux autres. Et la première fois c'était dans Ben-Hur en fait. Et je me dis mais oui. C'est peut-être pour ça qu'on a filmé le mec de dos pendant une demi-heure comme ça. C'est la référence à Ben-Hur où dans Ben-Hur il y a Jésus qui apparaît à un moment dans le film. On le voit que de dos, je crois. Bon, bref. Mais
en fait, t'as
autant Ben-Hur restera peut-être dans l'histoire du cinéma, autant The Man From Earth. Alors peut-être aussi, mais en remplaçant Plan 9 from Outer Space de Ed Wood, qui est considéré comme le plus mauvais film de cinéma. Et en fait, c'est faux. Tu vois, là, en 2007, je crois, on arrive encore à faire pire. Et on arrive encore à passer son film dans des salles de cinéma.
Tu me fais penser au Festival de Paris du Grand Rex, organisé par Achekoff. Il y avait des controverses, mais en plein milieu du film, si tu veux.
Ah ben là, on est deux. Quand le mec a dit, ben Jésus, c'était moi. Et un mec à côté de moi qui a dit, ah ben non, c'est pas possible. Ah non, je me casse et tout.
Mais personne
ne hurlait. La brèche était ouverte, je suis parti de la salle en même temps.
Personne ne hurlait dans la salle quand même.
Non, les gens.
C'est ça qui manquait. C'est qu'au Grand Rex, il y avait vraiment dans la salle des gens. Ils disaient, ouais, Achekoff, tu l'as gardé pour toi ce film-là. Donc il y avait des controverses en plein milieu de la séance dans la salle.
Mais là, ça méritait quand même pas mal de hurlements, ce que le mec aussi nous révèle. Le mec aussi, au début, alors en plus, ses potes, les profs de fac, l'aident à déménager au début. Puis la dame dit, tiens, mais c'est marrant, t'as un Van Gogh chez toi et tout. Puis le mec dit, ouais, j'ai jamais revendu, j'ai pas vraiment besoin d'argent, tu vois, je suis prof de fac. Et tout. Puis bon,
normal.
Top crédibilité, quoi. Et disent, alors, donc du coup, t'as profité de toute cette vie merveilleuse de voir l'humanité, t'as été voir Van Gogh. Et le mec dit, ah non, non, alors Van Gogh, c'était complètement par hasard, en fait, c'était mon voisin, quoi. Et alors là, donc au bout d'un moment, au bout d'une heure de révélation et de twist les plus débiles les uns que les autres, je me dis non.
Mais c'est rigolo, en fait, c'est un film drôle.
Alors, il paraît que la VF est complètement catastrophique, et donc là, on peut peut-être le regarder complètement au 12e degré. Je crois même que c'est visible sur YouTube, ce truc. Hein. Bon, bref.
Moi, je vous propose de continuer le palmarès.
Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est quand même l'imaginaire, par exemple, enfin, à quoi on reconnaît, pourquoi on aime les films de science-fiction, le fantastique, tout ça. Ça marche bien, en fait, quand au début du film, vous êtes relativement bien ancré dans le réel, quoi, pour avoir un peu ce décalage, un peu le, je sais pas comment on peut appeler ça, le sense of wonder, enfin le moment où on part dans le fantastique. Mais si dès le début les personnages vous paraissent pas du tout crédibles, enfin il y a rien qui colle, c'est même pas la peine de faire du cinéma de genre, quoi. Voilà.
Bon, et le reste du palmarès, donc, comme disait Jean-Marie.
Oui. Bah, puisque nous nous sommes arrêtés au palmarès des courts métrages, le temps de reprendre mon truc.
Voilà, c'est du pointu. Et moi, je les ai. Hein.
Tu les as vus, les courts-métrages?
Non, pas du tout.
Donc, compétition internationale de courts-métrages, prix du jury pour L'eau de Andrea D'Argenio, réalisatrice espagnole. Mention spéciale du jury pour...
On va bien rigoler, là.
Alors,
C'est turc aussi, je pense. Hein.
C'est turc, c'est ça. Sevinç Verseyre. Alors, je ne vais pas prononcer son nom
Kurt
de Chebe peur de
Turgul,
l'insulter, mais le cœur y est. Prix Canal+ pour Storm de Will Kindrick, États-Unis, et prix du public pour Wither Chins de Simon Biggs, Grande-Bretagne.
Ah oui, j'ai vu aussi The Room, qui était un film français, je ne me rappelle plus du nom du réal, qui avait fait Renaissance, là, il y a une quinzaine d'années, qui était un animé de science-fiction en noir et blanc. Et là, c'est un peu pareil. C'est un film qui, donc, en ce moment, qui était en avant-première, qui a été pris du jury du Festival Fantastique en Corée, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, Bunchan, quelque chose comme ça. Et en fait, pour moi, c'est un peu un scénario à la Richard Matheson, un petit côté quatrième dimension. Années 50, donc déjà, bon, faire ça en 2019, ok. Plonger les gens face à un truc. Bon, après, les comédiens, on va dire, ont des réactions de gens modernes et tout. Mais il y a des trucs un peu à la base aussi qui collent pas, et donc, du coup, après, ce décalage, je vais pas trop spoiler, c'est des gens qui achètent une maison et qui trouvent The Room, une pièce où il se passe des choses, donc assez typique de la quatrième dimension. Et j'ai trouvé que leur réaction était pas du tout crédible, donc moi, ça m'a un petit peu.
Bon, bref, la suspension d'incrédulité n'a pas marché avec toi.
Non, pas du tout. Et donc,
dans les mentions aussi qu'il faut donner sur les Utopiales, c'est sur l'anthologie, puisque chaque année, pour l'événement des Utopiales, l'anthologie sort. Cette année, depuis deux ans maintenant, il y a deux anthologies, une anthologie adulte et puis une anthologie jeunesse. Je ne vous parlerai que de l'adulte, malheureusement, c'est la seule que j'ai à disposition. Avec dedans, dans le sommaire, Christian Léourier, qui a aussi sorti une nouvelle dedans, et qui partage le bandeau rouge traditionnel avec Joe Walton, américain, Ted Thompson, anglais, Ada Palmer, américain, Michael Rock, antillais, Jean-Laurent Del Socorro, français, Sylvie Denis, français, Sylvain Edgar, français, et puis à l'intérieur, on peut trouver des gens comme Jacques Barbery, Olivier Paquet, Mel Andoris, Ophélie Bruno, Nicolas Martin et Claude Eken. Indémodable. Donc voilà, c'est la dixième anthologie pour les Utopias.
Ouais, donc des nouvelles majoritairement inédites, hein, souvent.
Totalement
inédites. Des traductions inédites.
14 nouvelles totalement inédites sur le thème de coder, décoder.
Voilà, qui était le thème du festival cette année. Et sinon, je ne sais pas si tu l'as dit, Alejandro Jodorowsky est venu aussi pour recevoir un prix extraordinaire.
Alors, oui, voilà. Depuis deux ans maintenant, il y a un prix extraordinaire aux Utopiales qui n'apporte rien en tant que tel. Ce n'est pas pour récompenser une œuvre, c'est pour récompenser une vie au service de l'imaginaire et notamment de la science-fiction. L'année dernière, c'était une Québécoise qui l'avait reçue et j'ai totalement mangé son nom et j'en suis désolé. Cette année, c'est Jodorowsky qui est venu pour récupérer donc le prix spécial.
Qui fête ses 90 ans, je crois. Hein. Il y a des rééditions de ses BD.
Il n'était pas venu la fois où on avait présenté le documentaire sur Dune.
Là, il est venu.
Mais là, il est venu.
Non. Et il était venu présenter un film dont j'ai oublié le titre, qui date de 1990 et qui avait été un petit peu salopé, soi-disant, par son. Qui avait été remonté, en fait, après par le producteur. Et là, il était venu présenter son director's cut. Voilà. Mais ça tombait pendant un autre truc qu'on avait prévu. Et en fait, c'était pas facile d'enchaîner les séances en bas. dans la grande salle de projection du festival, parce qu'il y avait tellement de monde que quand vous ressortiez d'un film, enfin moi je suis ressorti de The Room et ils avaient déjà donné les tickets en fait pour le prochain, donc pour Weathering With You. Donc cette année, le festival a quand même, je crois, complètement explosé son affluence. On est passé au-delà des 100 000 visiteurs sur 4 jours, alors que l'année dernière, c'était 5 jours. Hein.
Oui, tout à fait.
Et
donc beaucoup d'affluence qui a eu un effet négatif, puisqu'ils ont été obligés d'arrêter la billetterie le samedi.
Enfin, positif peut-être pour leurs affaires. Hein.
Positif à long terme, puisque nous parlons d'ouvrir les diverses salles dans les cités des congrès jusqu'à présent fermées pour les Utopiales. Je pense à l'Atrium et puis à une autre grande salle qu'il va y avoir. Donc, l'affluence qu'il y a, et surtout la qualité des conférences, puisque toutes les conférences étaient bouclées, même celles qui étaient en accès libre.
Ouais. Il y avait aussi des tickets pour voir certaines, comme celle sur Alien, justement, que j'ai raté avec l'anniversaire d'Alien par Roland Le Houk, par exemple.
Donc les Utopiales envisagent donc d'ouvrir de nouveaux espaces et de délocaliser certaines de leurs conférences, parce que l'affluence est au rendez-vous, et c'est tant mieux.
Allez, on s'écoute un petit peu de musique, donc la BO de Upgrade par Jed Palmer, sur le 101.5, et puis après on va s'écouter l'interview d'Alain Damasio qu'on a enregistré donc aux Utopiales il y a une dizaine de jours. Allez, c'est l'heure d'écouter l'interview d'Alain Damasio sur le 101.5.
Qui avait été réalisé par Romuald.
Et toi, on t'entend poser une ou deux questions à la fin, enfin le traditionnel portrait chinois de l'équipe d'Imaginaire.
Alors, justement, il y a juste la question sur la musique, parce que le portrait chinois, on n'avait pas le temps.
Imaginaire est toujours au Festival Utopial de Nantes, en compagnie d'un des plus importants auteurs de la SF francophone actuelle. Bonjour Alain Damasio.
Bonjour.
Vous avez déjà abordé le futur dictatorial dans la zone du Dor, et puis ensuite exploration d'un monde balayé par les vents dans la Horde du Contrevent. Votre troisième roman, Les Furtifs, est sorti ce printemps aux éditions La Volte. Il prend place dans un Paris hyper technologique où aucun habitant n'échappe à surveillance. Et là, on a Lorca qui a perdu sa fille.
Mmh.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah, on ne sait pas, justement, c'est tout le début du thriller Moi, j'appelle ça un thriller éthologique, c'est un thriller sur la découverte d'un comportement animal spécifique. Donc on pense qu'elle est partie avec des furtifs, donc avec des êtres très particuliers, puisqu'il n'y a aucune espèce de trace d'aucune sorte, ni sur la fenêtre, les montants, les volets, etc. Donc c'est comme si elle s'était volatilisée, mais le père a la conviction qu'elle est partie d'elle-même vers des êtres absolument fascinants, ouais.
Donc il y a un paradoxe, parce qu'on est vraiment dans une société où vous décrivez une société où vraiment tout est tracé. C'est pas une dictature, mais c'est plutôt une société de d'hyperconsommation, d'hypersurveillance, d'autosurveillance. Et là, il y a un gros paradoxe. Effectivement, quelqu'un disparaît sans laisser de traces. Et on découvre les furtifs. Mm-hmm.
Oui, donc c'était l'ambition. C'est-à-dire, c'était de dire qu'est-ce que ça serait des êtres intraçables. Voilà. Qu'est-ce que dans un monde complètement contrôlé comme le nôtre, c'est-à-dire qui génère, où chaque acte génère une information, parce qu'on vit dans des réseaux et on produit de l'information à notre insu en permanence, c'est comme si on faisait pipi et caca partout, mais on s'en rend pas compte. Comment dans un monde comme ça, trouver un angle mort, comment trouver un endroit qui ne soit pas vu, qui ne soit pas perçu. Et donc les furtifs, c'est ça, c'est l'incarnation, en tout cas la métaphore de ce qui serait l'intraçable dans ce monde-là. Ouais.
Il y a quelque chose qu'on retrouve aussi dans les autres romans et qu'on retrouve aussi là, c'est un jeu avec les mots. Il y a beaucoup de jeux avec les mots, vous jouez avec les sonorités. Ça a un sens dans ce roman, les sonorités?
Bah, particulièrement, parce que c'est un roman qui met un peu en tension, en conflit, la dimension visuelle et la dimension auditive, quoi. C'est-à-dire moi j'associe le visuel, l'optique, le panoptique à une dimension de manipulation. On le voit par les publicités, on le voit par les vidéos. Ça reste le sens numéro un utilisé quand on vous faire vendre quelque chose ou susciter du désir, la vue. Et par rapport à ça, moi, j'ai toujours ressenti le son, et la radio en particulier, mais aussi la musique, comme un vecteur d'émancipation. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup moins intrusif dans le son. Et le son te permet de fabriquer toi-même tes images, donc de susciter justement un imaginaire fort. Ce que, pour moi, permet beaucoup moins le cinéma. Alors, tu vas me dire, évidemment, les grands réalisateurs se suscitent par leurs images un imaginaire, mais tu as aussi beaucoup de productions formatées qui font écran à l'imaginaire, où l'image va faire vraiment écran à l'imaginaire. Donc, c'est une valorisation du son, et c'est même presque une ontologie par le son, puisque les êtres sont nés de chair et de son dans les furtifs. C'est une vibration fondamentale, comme ça, un rythme fondamental qui les crée, mais qui fait entrer en résonance la matière et qui leur permet de se déployer. Donc, ce que j'appelle le frisson dans le livre, pour moi c'est un peu une métaphore de ma conception même de la matière, c'est-à-dire que la matière est mouvement, pour moi c'est une vibration de départ, c'est la théorie des cordes, hein, d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que t'as la théorie de l'atome, puis t'as la théorie ensuite des quarks, et puis en dessous tu aurais la théorie des cordes, c'est une espèce de corde comme ça, circulaire, qui serait en vibration, et qui serait le plus petit état de la matière, quoi. Et finalement, après coup je me suis dit, tiens, c'est marrant, finalement mon délire sur le son a presque un fondement scientifique possible. Donc c'est ça, ouais.
Alors, c'est vrai que le son, c'est difficile à faire passer dans un roman, mais il n'y a pas que le son, il y a quelque chose, il y a aussi le graphisme, et puis il y a le mouvement, comme vous venez de le dire. Mmh. Tout est lié, le mouvement, le graphisme, on retrouve aussi les symboles qu'on trouve dans les autres romans pour identifier les personnages. Tout ça, c'est un tout?
Ouais, c'est un tout, parce que c'est paradoxal, mais l'écriture, voilà, c'est très pauvre d'un point de vue sensuel, un livre, puisque tu as juste des lettres noires sur une page blanche, donc tu es presque en déficit sensoriel en disant qu'est-ce que je peux véhiculer. Alors évidemment, les mots indiquent des sensations, etc., mais la première sensation, c'est forcément l'oralisation, c'est-à-dire quand tu dis des mots, quand tu oralises tes phrases, quand tu les parles, et effectivement, se produit tout un ensemble de sensations, tu véhicules un rythme, une musique, des effets d'assonance, d'allitération, etc. Mais il y a aussi, dans la page, une dimension visuelle, là pour le coup, qui porte un tout petit peu de sensation, c'est la forme des lettres, donc la typographie, une forme de lettres spécifique, et puis aussi tout ce qu'on appelle les signes diacritiques, les apostrophes, les points volants, etc. Et ça, je trouve que ça amène aussi une forme de sensation. Donc quand t'écris, tu te dis, bah, pourquoi ne pas utiliser toutes les potentialités que j'ai à ma disposition, même dans la mise en page, le jeu sur les espaces blancs, les espaces noirs, etc. Certains poètes lettristes l'ont fait, Mallarmé l'a fait, etc. Donc il n'y a pas de raison de se priver de ça, si c'est fait intelligemment, si c'est fait sobrement, si ça sert le récit. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Là, j'ai vraiment bossé avec une typographe, quoi, qui a travaillé spécifiquement sur ces signes, quoi.
Alors, dans ce roman, on a surtout un homme qui, et sa femme qui recherchent leur fille qui a disparu. C'est Lorca qui recherche Tichka, sa fille. Il va tomber sur des énigmes, en fait. Les furtifs, qu'est-ce que c'est? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Il y a des glyphes, ils ont laissé des glyphes qu'il faut décrypter. On est dans le thème des utopiales, là. Ça tombe bien.
Ah, mais là, j'ai fait plein de tables rondes et aucune n'a porté là-dessus. Donc, vraiment, je suis super déçu. En fait, oui, parce que ce langage que j'appelle le CRIF, hein, le CRIF, ça vient, c'est le même mot que crypter, en fait. Hein, ça veut dire cacher, quoi. Et c'est un langage qui cache les lettres les unes derrière les autres, quoi. Donc, c'est ça qui est génial. C'est si tu mets par exemple, un D, ben, tu peux cacher un A minuscule derrière. Si tu le retournes, tu caches un B. Si tu le retournes, tu caches un Q. Si tu le retournes, tu caches un P, etc. Donc, il y a tout un jeu là-dessus où les furtifs savent comment cacher les lettres les unes dans les autres. Et donc, tout un jeu de décryptage, d'encodage, décodage. C'est génial parce que ça permet aussi d'alimenter le thriller, d'alimenter le processus de découverte, d'énigmes. Ça, c'est toujours puissant en narration parce que tu vas de dévoilement en dévoilement et tu as envie de savoir ce qu'il y a derrière ça. Donc ouais, voilà, on est en archi dans le thème. Mais j'ai eu aucune table ronde là-dessus, c'est scandaleux.
C'est bien qu'on en parle. Justement, on va peut-être encore un peu plus en parler, parce que effectivement, ça sert au propos, puisque à un moment donné, il y a une énigme, et puis on voit que les gens y répondent de leur manière. Ils se projettent finalement là-dedans, puisqu'ils n'ont pas forcément les règles,
ouais,
ils se projettent,
ouais, complètement.
Et ils ne trouvent pas du tout les bonnes solutions, ouais, au départ, ouais, et les mêmes solutions. Et ça révèle aussi ce que sont les personnages.
Moi j'adore ce passage, t'as complètement raison et c'est très bien vu, mais j'adore ce passage pour ça, parce que en fait c'est de dire que par rapport à une énigme insoluble, parce que c'est insoluble, on a la solution, mais ce qui est fabuleux, c'est de se dire que c'est un portrait inversé des gens, c'est-à-dire que ça permet de leur interprétation en dit mille fois plus long sur la vérité de ce qu'ils sont que sur la vérité de ce qu'ils essayent de trouver ou de chercher. Et je pense que c'est vrai dans tout art, c'est vrai dans tout travail de recherche, quoi. C'est-à-dire que ce sur quoi cherche un chercheur en dit 10 fois plus long sur ce qu'il est lui que sur la recherche elle-même. Et ce qu'écrit un auteur en révèle 1000 fois plus long. C'est toujours une biographie involontaire, même quand tu travailles comme moi sur l'imaginaire ou des livres imaginaires qui paraissent très peu biographiques. Enfin, furtif l'est beaucoup plus, mais j'ai fait des livres que tu te dis non, mais il n'y a rien de biographique dedans. Et en fait, c'est toujours un portrait involontaire, ou en tout cas une biographie involontaire de. Donc ça j'aime bien, ouais, cet effet de réverbération.
Il y a aussi autre chose, hein, c'est pas qu'un livre d'aventure ou de fiction, c'est aussi, là on retrouve des thèmes qui vous parlent, des thèmes politiques, par exemple sur les gens qui sont au dehors de la société.
Oui, bah ça c'était vraiment une ambition majeure du bouquin. C'est-à-dire que oui, je mets un fond dystopique en place, et un peu cauchemardesque, qui est l'aboutissement un peu de l'ultralibéralisme tel qu'on le voit aujourd'hui. On privatise les villes, on privatise l'éducation nationale, on porte tous des bijoux connectés, etc. Et on est soumis à une captation très étendue de notre attention, de nos traces. Et en même temps, je voulais faire monter en parallèle, et de façon beaucoup plus forte et convaincante, toutes les façons alternatives de lutter contre ça, de résister, de proposer d'autres modes de vie. Et là, je mets en place un ensemble de mouvements, la Céleste, la Traverse, les Aguises, parce que c'est des zones autogouvernées. Il y a plein de mouvements qui sont mis en place et qui permettent de montrer d'autres modes de vie, d'autres façons de fonctionner, d'autres voilà, et des façons d'aller au-delà du capitalisme ou d'aller en dessous le capitalisme, en tout cas d'y échapper et de pas être sous ce régime de spectacle, consommation, hyperconsommation, individualisme exacerbé dans lequel nous on patauge et on vit. Quotidiennement, quoi, voilà. Donc, c'est aussi le but aussi de la SF, c'est de tracer des horizons désirables au-delà de ce qu'on a aujourd'hui en disant, ben, vous voyez, il y aurait des possibilités de faire autrement. Je vais vous les montrer, je vais les mettre en récit, je vais essayer de vous faire miroiter, en tout cas, ces enjeux-là, ouais.
Alors, effectivement, il propose beaucoup de solutions.
Ouais, ouais.
On voit dans les personnages, justement, l'inter là, qui essaye de s'installer là où il y a des vides. Il y a donc les furtifs qui en sont le symbole aussi, puisque
bien
les furtifs,
sûr, ouais,
sont intraçables, et justement dans ce monde-là. Et puis, il y a ces moments d'utopie, il y a aussi des moments dystopiques qui remettent le lecteur un peu à sa place,
ouais,
comme dans la scène où il y a des vendiants. On peut, ouais, un peu parler de cette, ouais, scène-là qui est quand même assez frappante.
Moi, j'y tenais beaucoup parce que. Il y a toujours le risque quand tu développes, et je l'avais fait un peu la zone d'or, c'était un peu un problème, mais que tu as. C'est un peu idéaliste, tu vois. Si tu poses des choses un peu idéalistes sans conflictualiser ton récit, c'est un peu. C'est de dire une chose très simple, et tu le vois sur les zadistes, tu vois sur les gens qui méditent beaucoup, c'est qu'il y a toujours un moment où ils passent par la case garde à vue, Il passe par la case peine de prison, ferme, sursis. Et t'as toujours un moment où la patrouille te rattrape, ou en tout cas le pouvoir te dit t'as été trop loin, et essaye de te remettre à ta place. Et je voulais montrer ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas juste on s'éclate, on va sur les toits et on se balade en parapente, c'est qu'à un moment donné tu payes cash ce que t'as fait ou tenté de faire, et que le pouvoir est sans pitié par rapport à ça. Et ça peut être le pouvoir judiciaire comme le pouvoir économique, et là je me mixe les deux, puisque c'est comme des travaux d'intérêt collectif, mais tu travailles pour des boîtes privées quand tu exécutes ta peine. Donc c'est voilà, tu mendies des ventes, donc t'es un vendiant et dans des statuts ultra précaires et qui correspondent en plus idéologiquement à absolument l'opposé de ce que ces gens défendent et veulent créer. Comme c'est on t'oblige à vendre des voix, personnaliser des trucs, alors que toi t'es anticapitaliste au possible, quoi. Donc je trouvais ça important de montrer cette, j'aime bien cette scène, je trouve qu'elle est très ancrée, très réaliste et très mélancolique, ouais.
Et ça pose aussi une question dans le sens quelle va être la solution à cette exploitation. Est-ce qu'il y a une solution pour sortir de cette dystopie?
Il y a plein de solutions, mais justement, il y a des solutions extrêmement variables. Il ne faut pas essayer de trouver une solution, parce que si tu trouves une solution, ça veut dire que tu remets un système normatif en place et qu'on te dit, voilà, la révolution, il y a une seule façon de la faire. Non, il y a plusieurs révolutions possibles, il y a une infinité de révolutions possibles qui peuvent se produire sur des petites communautés, des communautés un peu plus grandes, à différentes échelles, etc. Et c'est parce que c'est pluriel et plural qu'on va en sortir. Si tu te dis, bah, je vais te mettre un nouveau communisme en place ou un nouvel anarchisme en place ou... À mon sens, t'aboutiras à rien parce que tu vas réendoctriner les gens au niveau serveur. Il faut garder cette pluralité des perceptions, des envies, des désirs et essayer que se créent les réseaux affinitaires pour les porter dans des territoires donnés, peut-être localement, etc., sans vouloir d'un coup structurer tout le monde autour de la même révolution, tu vois. Donc ça, c'est important dans le bouquin, ouais. Et je le montre à la fin, il y a toute une ouverture vers tout un ensemble de bifurcations, de révolutions. Certains le vivent comme révolutionnaires, d'autres comme bifurcations, d'autres comme des alternatives. Mais tu as plein de façons d'échapper au système. Et il faut garder ce champ ouvert-là. Ouais.
Alors, on s'approche de la fin de l'interview. Et forcément, la grande question qui passionne tout le monde, c'est quels sont tes projets à partir de maintenant?
J'en sais rien du tout. Enfin, si, j'en ai deux très clairs et qui sont déjà en place. C'est une série télé, on va dire, post-effondrement.
En tant que scénariste?
Ouais, en tant que scénariste, 2400. Enfin, en tant que créateur de la Bible narrative et scénariste. 2400, l'Antarctique dégelée, la Terre a réussi à s'entretuer, il y a 10 000 survivants, et c'est la réinvention de Sapiens, moi j'appelle ça, c'est-à-dire qu'on réinvente nos rapports et à la nature et à la technologie en prenant acte que l'hypertechnologie a tout bousillé, donc comment on se reconstruit comme Homo sapiens dans ce monde-là. Ouais. Et il y a un projet de série radiophonique aussi, SF, ouais.
Notre interview va toucher à sa fin,
ouais.
Et comme d'habitude, sur notre émission, tu as la possibilité de choisir la musique qui va clore notre interview.
Waouh.
Qu'est-ce que tu veux écouter?
Moi, j'ai envie de finir sur... alors, ça dépend du temps que vous avez, mais sur Entrer dans la couleur, qui est le titre qui est à la fois le titre et de l'album que j'ai fait avec Yann Péchin, qui est le guitariste de Bachung, et qui figure dans le roman des Furtifs. C'est une sorte de manifeste pour le vivant, pour le renouement avec le vivant, et qui pose pour moi un horizon désirable assez fort. Donc oui, c'est ça que j'aurais envie de faire écouter. Si je peux.
Pas de soucis, on le trouvera. Ça a été un vrai plaisir de t'entendre, Alain. Et on va devoir t'abandonner.
Ça, c'est vrai, ultra vite, ouais, c'est vrai que...
Le vivant. Le vivant n'est pas une propriété, un bien qu'on pourrait acquérir ou protéger. C'est un milieu. C'est un champ qui nous traverse, dans lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés. Si bien que s'il existe une éthique en tant qu'être humain, c'est d'être digne de ce don sublime d'être vivant et d'en incarner, d'en déployer autant que faire se peut les puissances. Qu'est-ce qu'une puissance? Une puissance de vie. C'est le volume de liens, de relations qu'un être est capable de tisser et d'entrelacer sans qu'il s'effondre. Ou encore, c'est la gamme chromatique des affects dont nous sommes capables. Vivre, revient alors à accroître notre capacité à être affecté. Donc, notre spectre ou notre amplitude à être touché, changé, ému. Contracter une sensation, contempler, habiter un instant ou un lieu. Ce sont des liens élus. À l'inverse, faire face à des stimulus et y répondre sans cesse pollue notre disponibilité. L'économie de l'attention ne nous affecte pas, elle nous infecte. Elle encrasse ses filtres subtils, sans lesquels il n'est pas de discrimination saine entre les liens qui libèrent et ceux qui aliènent. Nos puissances de vivre relèvent d'un art de la rencontre, qui est déjà en soi une politique, celle de l'écoute et de l'accueil, de l'hospitalité au neuf qui surgit. C'est la capacité à se tenir debout dans l'ouvert, dans ce qu'on pourrait baptiser le rouge ouvert. Un champ d'intensité vibratile et frémissant, attentif et vigile. Et puisque c'est la rencontre, le fait actif d'affecter et d'être affecté passionnément qui va nous hisser au vivant, il devient crucial d'aller à la rencontre. À la rencontre aussi bien d'un enfant, d'un groupe, d'une femme, que de choses plus étranges comme rencontrer une musique qui te troue, un livre intranquille, un chat qui ne s'apprivoise pas, une falaise. Côtoyer un arbousier en novembre, épouser la logique d'une machine, rencontrer une lumière, la mer, un jeu vidéo, une heure de la journée, la neige. Faire terreau pour que les liens vivent, les liens sociaux, collectifs et communautaires bien sûr, mais aussi amicaux et amoureux, filiaux ou familiaux. Puis au-delà et avec plus d'attention encore, les liens avec le dehors, le pas de chez nous, l'autre, soi, avec l'étranger, d'où qu'il vienne. Et plus loin encore, hors de l'humain qui nous rassure, les liens avec la forêt, le maquis, la terre, avec le végétal comme avec l'animal, les autres espèces et les autres formes de vie, se composer avec, les accepter, nouer avec elles, sans berlificoter. Peut-être n'est-il qu'une seule révolte au fond, contre les parties mortes en nous, cette mort active dans nos perceptions saturées et nos pensées qu'on mécanise, nos sensations éteintes. Être du vif, relever du vif. Les furtifs portent en eux et nous portent à nous comme un cadeau caché dont le ruban est à défaire. Cette double révolution possible, celle des liens horizontaux à tisser sans cesse hors de nous, et celle des liens verticaux à intensifier en nous avec nos ascendances animales. Ce n'est pas l'un ou l'autre, l'un après l'autre. C'est tout ensemble une vitale insurrection collective et intime pour porter au point de fusion nos puissances et en offrir l'incandescence à ceux qu'on aime. C'est un alliage et c'est une alliance. Être moins celui qui brûle que celle qui bruisse. Entrer par effraction dans le rouge ouvert, s'y tenir fragilement, pouvoir entrer couleur.
Un extrait donc de l'album d'Alain Damasio avec Yann Péchin, guitariste lyonnais, je crois. Bon, c'est, d'après lui, c'est le guitariste de Bachung. Et je vois qu'il a aussi été guitariste de Miossec et de Tiefen, par exemple.
Bon.
Alors, Patrice, ouais.
Eh bien, ce soir, j'avais envie de vous dire quelques mots, alors quelques mots seulement parce que. L'heure s'avance.
4 minutes.
De The City and the City de Sheena Mieville.
Sheena Mieville.
Non, non, je le prononce à la française parce qu'il y a un accent sur le E.
Alors, ouais, on se demande pourquoi d'ailleurs. C'est en anglais, non, il me semble.
Bah oui, je sais bien que c'est en anglais. Oui. Alors, oh, mais vénérable mon chapeau, comment vas-tu nous parler d'une œuvre qui est sortie il y a 10 ans, là, t'es pas vraiment à la page.
Mais non, qui reste un classique quand même. Hein, ouais,
je suis désolé, ce truc-là, mentionné. Quand même, je lis dans l'introduction que ce machin-là, il a quand même eu le prix de l'imaginaire comme meilleur roman et meilleure traduction. Un petit clin d'œil à Nathalie Mège, ma petite copine.
C'est
parce que c'est atteint avec les gens des conventions, on est tous des petits copains. Et aussi été récompensé des prix Hugo, Arthur C. Clarke, World Fantasy et du Grand Prix de l'Imaginaire en France. Donc c'est quand même pas rien. Alors, je ne vais pas vous parler de l'intrigue, parce que l'intrigue, c'est une intrigue policière. Et comme toute intrigue policière, il faut surtout ne rien en dire pour apprécier, pour être surpris. Je vais vous parler du contexte dans lequel se passe cette histoire. Donc, The City and the City, la ville et la ville, ça se passe effectivement sur un territoire où il y a deux villes entrelacées. Sur un même territoire, deux villes. Alors, certaines zones sont ce qu'ils appellent des zones plénières, donc où il n'y a qu'une seule ville, et d'autres zones sont des zones tramées, où il y a un mélange des deux villes.
Dans deux dimensions différentes ?
C'est ce que j'ai cru au début. On a presque l'impression d'un truc fantastique, mais pas du tout. Nous sommes, on peut supposer, dans une sorte d'endroit qui se trouve en Europe centrale, vu les noms. Et ces deux villes coexistent sur le même territoire physique. Et ce qui est intéressant, c'est que la loi infranchissable, il ne faut pas que les habitants d'une ville regardent, entendent, sentent quoi que ce soit qui soit de l'autre ville. C'est-à-dire que dans les zones tramées, tu peux imaginer que tu habites un immeuble et à 10 mètres de toi, tu as un autre immeuble qui fait partie de l'autre ville. Tu ne dois pas le voir. Et si tu vas aller de cet immeuble-là à l'immeuble voisin, tu es obligé de passer par une sorte de rond-point qui est la frontière entre les deux villes, d'y aller, d'avoir les autorisations, de ressortir pour aller à 10 mètres à côté. Et ça, alors ça c'est vraiment extraordinaire, parce qu'effectivement, tu peux avoir l'impression, quand tu commences à lire le bouquin, que tu es une sorte de monde parallèle, mais pas du tout. Et ils ont donc été obligés, l'auteur et la traductrice, obligés d'inventer un vocabulaire pour exprimer ce que les gens font, par exemple, éviser. C'est-à-dire que tu refuses de voir la personne qui n'est pas dans ta zone de ville. Et ça veut dire qu'il faut quand même le détecter, ça. Et c'est ça qui est très fort, c'est qu'il ne te dit pas les codes, mais il te les suggère. Ça, tu te rends compte qu'à partir des modes d'habillement, des couleurs, de ce qui est permis dans les couleurs chez les uns et chez les autres, c'est ça qui permet et qui les habitue dans leur enfance, ils sont éduqués comme ça, à éviter de voir les autres. Et bien entendu, l'histoire policière fait que il y a un meurtre et le policier va être obligé de naviguer de la manière la plus légale qui soit, tout au moins au début, dans les deux villes. Et ça c'est vraiment très très fort, parce que ça donne vraiment une impression de décalage. Au début, c'est vrai que tu comprends pas. Il y a un moment, le gars, par inadvertance, il regarde quelqu'un et tu dis « Mais non, elle est pas là !» Le regard dévie, etc. Et les gars, ils se sont habitués. Par exemple, le héros, il habite dans un immeuble, et devant chez lui, il y a un train qui passe, et le train est de l'autre ville. Donc il ne doit jamais croiser le regard de ceux qui sont dans le train. Et ceux qui sont en train, pareil.
Et donc les personnages du roman sont nés comme ça dans ce monde,
en fait. Et le monde extérieur tel qu'on connaît existe. C'est-à-dire qu'il y a les États-Unis, il y a effectivement, c'est une sorte d'enclave hors du temps, enfin hors du monde, hors des codes habituels. Et comment font-ils pour respecter ça ? Eh bien, il y a une sorte d'entité plus ou moins secrète. Alors, quand tu transgresses, ça s'appelle rompre. Et donc, il y a un endroit qui s'appelle la rupture, dont on ne sait rien, et qui est censé faire respecter ça. Quand il y a une rupture qui arrive, elle intervient immédiatement, elle sécurise la zone et tout disparaît. Et on ne sait pas ce qui se passe après. Alors évidemment, il y a des ruptures involontaires involontaires qui sont du style bah oui j'ai regardé sans le faire exprès ou j'ai entendu mais bon personne ne voit ou les enfants ils n'ont pas encore l'habitude etc. Puis t'as des accidents aussi, par exemple t'as la voiture de l'autre ville qui percute parce que alors là la rupture intervient, faut sécuriser la zone etc. et tout tourne autour de ça, et ça c'est très très bien fait dans l'ambiance, dans le, et ça devient très très pesant parce qu'évidemment t'as le suspense de ils te mènent en bateau là, sur l'enquête policière, ils te mènent en bateau avec des allers-retours où tu crois si mais c'est pas ça, mais en fait si c'est ça, en fait voilà, des trucs assez conventionnels finalement pour un polar, mais dans ce contexte et le fait qu'il y ait la rupture, cette sorte d'organisation ça, qui est derrière et qui peut intervenir à tout moment et tu sais pas pourquoi et tout ça, c'est vraiment excellent ça, je recommande, même s'il a 10 ans c'est vraiment
et on le trouve donc en livre de poche
là c'est pocket, c'est une édition pocket c'est très déstabilisant et c'est très original. C'est surtout très très original.
Ok. Allez, il nous reste quelques minutes pour l'agenda. Ça dégouline dans le cornet. Dans deux minutes sur le 101.5. Donc Pierre-Marie, tu voulais nous parler de cet événement qui s'appelle.
Je vais vous parler de plusieurs choses, plusieurs événements, trois au total. Ouais. Vendredi à la fin de la semaine, vendredi 15 à 20h30 à la bibliothèque Au fil des mots à la Déguenière, il y a la projection d'Enki Bilal, Souvenir du futur. Un documentaire de Christian Guyonnet et de Marilyn Moine sur ce personnage atypique qui est Enki Bilal et qui a changé les codes de la BD.
Ça fait partie d'un cycle, là, tous les trucs dont tu vas nous parler.
Tout à fait. Alors, c'est un cycle qui a commencé le 23 octobre et qui finira le 23 novembre 2019, qui s'appelle Au-delà du réel. Voilà. Et c'est sur l'ensemble des médiathèques de Loire-Authion, donc la communauté de communes, où il se passe plein de choses. Moi, je vous parle spécifiquement de plusieurs
Certains trucs que tu as choisis dans leur programme.
Tout à fait. Mais sinon, vous allez sur Facebook à l'ensemble médiathèque Loire-Authion ou leur page internet.fr et vous avez accès à tout. Et autre chose que je tiens particulièrement à vous partager, c'est le 23 novembre, à 15h30, à l'espace culturel de Loire-Authion où il y aura une table ronde qui regroupe Roxane Dambre, Mélanie de Coster, Boris Beuzelin et Tony Emeriot. Et nous allons parler de fantastique, puisque je vais animer cette table ronde. J'aurai la chance d'animer cette table ronde pendant une heure et demie.
Et Tony Emeriot et Boris Beuzelin sont exposés en ce moment dans ce réseau de médiathèques. Et on les recevra dans notre émission dans deux semaines sur Radio G.
Le 26, émission particulière, puisque nous aurons 2 heures. Et donc nous aurons beaucoup d'invités.
20h, 22h.
D'invités. Et nous allons donc les inviter, Tony Emeriot et Boris Beuzelin, pour la sortie d'une BD.
Ouais, Paria, donc, qui sortira, enfin la BD sortira pas, ce sera le premier jour du lancement du financement participatif, puisque ça sortira sur Comics Initiative.
Et enfin, le 30 novembre de cette année, il y a Sèvres, les rencontres de l'imaginaire à Sèvres, donc à côté de Paris, pendant une journée où vous allez pouvoir rencontrer une cinquantaine d'intervenants pour discuter et surtout la